La première est toujours la plus difficile. Merci, madame.
Bonsoir. Vous ne nous avez pas parlé du tout des expériences américaines d'introduction des chimpanzés dans les familles et de voir un peu l'évolution de ce qui s'était passé. Parce qu'il y a quand même eu toute une série. Qu'en avez-vous retiré et quels sont les messages par rapport aux grandes directions que vous avez mises?
Ah, la seule chose qu'on peut tirer avec des chimpanzés éduqués, c'est que vous prenez une baffe à un moment ou à un autre. Alors, c'est une catastrophe. C'était une catastrophe. Vraiment une catastrophe. Parce que ça s'est très mal passé. Vous savez qu'en plus, l'histoire la plus significative, c'était l'histoire de Léo Ferré, de sa famille, avec ce chimpanzé qui s'appelait Pépé, qui donne d'ailleurs une des plus belles chansons qui s'appelle Pépé, qui est absolument magnifique. Non, en fait, les chimpanzés sont très proches de nous, et comme ils sont très intelligents, ils comprennent très vite qu'ils sont plus forts que nous. Et ça se passe rapidement très mal. Les exceptions, il y a des exceptions, ça s'est bien passé, notamment avec une chimpanzée qui s'appelait Lucie, mais... Pourquoi ? Parce que l'erreur a été de croire qu'on pouvait les éduquer vraiment comme des humains. Alors, ceci dit, ils sont, leur comportement et leur pensée, et évidemment touchés, modelés à travers cette éducation. Alors, deux exemples extrêmes, c'était Léo Ferré, bien sûr, et puis un couple qui s'appelait les Garners. Où là, on est dans les années 70, et c'est l'année, il ne faut pas interdire. On n'interdit rien aux enfants, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, ça continue un peu. Et là, vous imaginez, les chimpanzés, ils sont à la fête, quoi. Et de fait, ils dominaient complètement leur famille, ils même les terrorisaient. Et à chaque fois, ça a été dramatique, il a fallu remettre ou les chimpanzés avec d'autres chimpanzés. Et là, du coup, ça s'est très mal passé pour ces chimpanzés, parce qu'ils étaient habitués à un environnement de tolérance, mais aussi d'écoute quand même, et d'échange et d'éducation. Et là, ils se retrouvent avec d'autres chimpanzés qui leur font vite comprendre que les règles sont celles des chimpanzés. Et là, ils le vivent extrêmement mal, bien évidemment. Il y a eu cet exemple de Lucie qui s'est très bien passé, où là, effectivement, ils ont mis des règles très claires qui tenaient compte des comportements des chimpanzés, et tout le monde a bien tenu sa place. C'est un des rares exemples. C'est Mme Patterson, je crois, qui a fait ça. Pour le reste, non. Par contre, lorsqu'on leur apprend le langage du sourd-muet, on appelle l'ASL, American Sign Language, on a cet exemple avec plusieurs chimpanzés, où on leur donne donc des photographies, comme un jeu de cette famille, vous allez voir pourquoi je parle de ça, où là, il y a des portraits de chimpanzés qu'ils connaissent et d'hommes et de femmes qu'ils connaissent. Et on lui demande de dire où sont les animaux, où sont les hommes. Hop, elle trie, elle connaît les gens, et puis d'un seul coup, elle voit la photo de son père, elle met à gauche avec les animaux, elle continue, elle voit d'autres chimpanzés qu'elle connaît, elle met à gauche, et elle se voit, crac, elle se met à droite. Bien sûr. Oui, donc voilà, donc du coup, ce ne sont plus des chimpanzés, mais ce ne sont pas non plus des humains. Donc, ce qui fait qu'ils ont vécu ça donc, de manière extrêmement difficile. Et bien, alors, moi, en ce moment, j'ai des controverses avec mes amis roboticiens. Je ne suis pas roboticien, donc je les écoute. Mais quand ils me disent qu'avec ce qu'on appelle les robots collaboratifs ou maintenant l'intelligence artificielle avec les algorithmes auto-apprenants, ça va très vite, ça. Surtout, alors pourquoi on parle d'un seul coup d'intelligence artificielle? Parce qu'on a des nouvelles programmations qu'on appelle le deep learning, etc., qui font que ça explose très très vite, depuis 2 ans. Et là, ils me disent, bah oui, mais attends, on a toujours la main sur la prise, et de toute façon, ce sont des machines. Je dis, attends, on a eu des chimpanzés auxquels on a appris le langage gestuel, on les a mis ensemble pour savoir s'ils avaient communiqué. Ben, bien sûr qu'ils ont communiqué, et puis à un moment, ils commencent à raconter des histoires. D'ailleurs, ils inventent des termes que les gens ne comprennent pas. Ça se trouve, ils se sont dit, t'as vu, qu'on ne plus rien les imbéciles là, de l'autre côté de la vitre. À partir du moment où vous avez des systèmes apprenants et auto-apprenants, on appelle ça un système autocatalytique, pardon pour les termes, vous avez quelque chose qui part et qui se met en place. Donc on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, on voit bien que, par exemple, il y en a beaucoup d'exemples autour de ces chimpanzés et vraiment de leur compassion, hein, qui étaient capables de percevoir quand les gens avec lesquels ils étaient avaient de la peine, ils étaient malades, pas, ils viennent les consoler, ils vont les aider, ils leur disent qu'est-ce que t'as, etc. Donc oui, effectivement. Donc on voit l'importance quand même chez des espèces comme les nôtres, espèces K, comme je disais tout à l'heure, du contexte culturel dans lequel on est, de l'éducation, de la communication, d'informations, etc. Et du coup, ça devient extrêmement compliqué, comme je disais tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont capables d'avoir des pensées métaphysiques au sens le plus large du terme? Et ça, pour l'instant, on n'a pas accès. Mais, comme vous savez, il y a des études avec Les bouddhistes adorent ça d'ailleurs. Vous savez que les bouddhistes adorent ce qu'on est en train de faire, nous, en science, en ce moment. Il y a des études qu'on appelle la neurothéologie, de regarder effectivement est-ce que les personnes qui sont à la méditation, etc., ont les activités cérébrales de fait particulière. Alors évidemment, la presse a dit on a trouvé le module cérébral de Dieu, donc il faut arrêter. Mais il est très clair, on le sait très bien, que la méditation, comme d'autres activités d'ailleurs cognitives, ont des effets sur l'activité cérébrale et le développement de certaines parties du cerveau, comme la musique ou la lecture ou d'autres choses. Alors, est-ce qu'on pourrait l'appliquer aux chimpanzés ?
Alors, moi, j'ai une question, j'espère que je vais réussir à l'exprimer de façon claire, mais en fait, il y a un domaine auquel j'ai toujours projeté de m'intéresser, j'ai jamais réussi à le faire, mais c'est la philosophie ou la science de la connaissance.
Ouais.
Bon, et bon, finalement, tout ce qu'on approche, tout ce qu'on connaît, on le connaît grâce à un autre outil qui est l'être humain.
Ouais.
Donc, à partir de là, il y a une potentielle remise en question de tout ce qu'on sait. Mmh. Et donc, ma question à partir de là, parce que je connais mal ce champ-là, mais est-ce que les créationnistes ont des bases scientifiques sérieuses pour contester la science, enfin, les connaissances, etc. Ou est-ce qu'on a tous les moyens de combattre intellectuellement leurs approches?
Oui, oh, ben ça, je vous renvoie, je vous renvoie au procès, hein, c'est aussi simple que cela. Le juge Overton, je rappelle son nom, est un juge croyant, pratiquant, et il a posé la question, qu'est-ce que la science ? Parce qu'en fait, le débat n'est pas sur la connaissance. Je veux dire, dire qu'on a Lucie alors que d'autres disent qu'ils ont Marie, ça n'est pas un débat, quoi. Je veux dire, on n'avance pas, ça n'a aucun sens. Et le juge a posé cette question sur justement l'épistémologie, c'est-à-dire sur justement, alors ça c'est l'épistémologie, c'est la partie de la philosophie et de la logique qui s'occupe de la construction du savoir. D'accord ? Et le juge a demandé, c'est quoi la science ? Et la science, ce sont deux choses, et surtout les théories, l'approche de Thomas Kuhn, non pas Thomas Kuhn, Karl Popper, pardon, qui dit que c'est la réfutabilité. Je veux dire, une théorie scientifique ou une hypothèse scientifique doit être réfutable, et avant tout vérifiable et réfutable. Je vous donne un exemple. L'Isaac's Theory d'Yves Coppens, vous avez entendu parler. Il y a 30 ans, il fait un magnifique exercice de consignance, c'est-à-dire il regarde ce qu'il y a dans différents domaines, les méthodes de datation, je fais vite, hein, les fossiles, où sont les grands singes, les datations, et tout converge vers, indépendamment pour ces champs scientifiques, même la génétique, donc, je crois que je l'ai dit, vers l'idée que notre lignée, celle de chimpanzé, se sépare vers 6-7 millions d'années en Afrique, de part et d'autre des vallées du Rift. Vous savez, ces grandes vallées qui séparent l'Afrique de l'Est de l'Afrique de l'Ouest, où il y a tous les grands fleuves africains notamment et les grands lacs. Et à partir de là, on va développer les recherches. Financé par Yves Coppens, son passage, enfin cofinancé. Les unes qui vont aller à l'Est pour vérifier l'hypothèse ou la consolider. Et en 2000, c'est l'annonce d'Aurorin, Tungenensis, au Kenya, 6 millions d'années, qui confirme l'Isaac's Theory d'Yves Coppens. Et 2 ans plus tard, patatras, Michel Brunet, qui en plus a succédé à Yves Coppens au Collège de France, lui trouve Toumaï, qui a la mauvaise idée d'être à 2500 km du mauvais côté de l'Isaac's Theory. Parce qu'il est au Tchad. Alors des gens ont dit, les scientifiques se trompent. Non, on ne s'est pas trompé. Le contrat en science, c'est de faire avancer les connaissances. Et pour nous, les modèles ou les hypothèses ne sont que des outils qui nous permettent de faire avancer les connaissances. Franchement, on s'en fout que ça soit l'Est ou l'Ouest, franchement, je peux vous le dire. Mais si l'ensemble des connaissances convergent vers l'Est, pour l'instant c'est l'Est. Maintenant c'est à l'Ouest. Il y a des chances que d'autres connaissances, d'autres données vont arriver, d'autres fossiles arrivent. Mais on ne s'est pas trompé. On a dit, on a rempli le contrat, faire avancer les connaissances. Donc on a perdu un modèle, on a gagné 3 fossiles. Et donc un autre schéma. Maintenant, la science créationniste n'est pas une science, c'était ses prétentions. Et pour quelles raisons les créationnistes se veulent scientifiques? Parce que, qu'on le veuille ou non, depuis Galilée, les religions ne peuvent pas se passer du prestige des sciences. Les sciences ne jouent pas contre la religion, mais cette raison universelle qui est partagée quelles que soient les croyances de par le monde est quelque chose qui a un prestige absolument considérable, et c'est pour ça que les créationnistes veulent se l'approprier. Mais c'est là qu'ils se sont fait bouter pendant le procès, parce que la science créationniste dit que c'était créé en 6 jours, et tout ce qui va à l'encontre ne le réfute pas, c'est faux. Alors que nous, c'est exactement l'inverse. On trouve un fossile de l'autre côté, on change le modèle. Eux, ils disent au contraire, toutes les données sont à l'encontre de leur modèle. Donc, à cet égard, les sciences ne sont, le créationnisme n'est pas une science. Alors, moi, ça ne m'ennuie pas du tout que des gens pensent que le monde était créé en 6 jours, en 6 000 ans. C'est ça, ça ne me pose aucun problème. Mais ce n'est pas de la science. Le tout, c'est qu'on sache. Donc, c'est là qu'il y a confusion par rapport à ça. Donc, vous voyez, c'est ça l'épistémologie. Donc, c'est comment construire le savoir. Maintenant, y a une rationalité théologique. Les théologiens, quand on regarde... Moi, je ne suis pas théologien, mais il y a une rationalité, il y a une pensée extrêmement structurée, complexe par rapport à ça. Hein, comme il y a différentes formes de rationalité en philosophie. Donc, la rationalité n'est pas de l'ordre que de la science. Inversement, les scientifiques qui disent qu'il n'y a pas de rationalité en théologie ou dans les religions ou ailleurs se trompent, parce qu'il y a une très grande cohérence. Moi, j'ai un ami, je présidais à une époque Sciences et Société pour la France et le Québec, et il me racontait, c'était un très très grand écologiste, hein, donc voilà, un scientifique comme moi, qu'il avait passé une semaine dans une forêt boréale avec un chaman indien. Il m'a dit, on a autant appris l'un de l'autre. C'est magnifique. Mais il n'y a pas eu de relativisme. Hein. Par contre, quand je dis qu'il y a des formes de rationalité extrêmement cohérentes dans tous ces domaines d'interrogation du monde, par contre, ils ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas équivalents. Le relativisme, ça va à l'encontre de notre intelligence et de la rationalité. D'accord ? Est-ce que je suis clair ?
Très clair.
Très clair, merci. Merci.
Merci beaucoup et bravo pour commencer. Oui, je reviens sur quelque chose que... vous avez dit, si je vous ai bien entendu ou compris, et c'était la première fois que j'entendais ça, qui m'a intrigué, donc est-ce que vous pourriez développer, c'est quand vous avez parlé du sens de la culture des dauphins, est-ce que j'ai bien compris? Je conviens tout à fait de leur intelligence qui est très grande, mais avant, qu'est-ce que vous entendez par la culture des dauphins? Merci.
Alors oui, c'est vrai, ça peut sembler, je vous l'accorde, lorsqu'on est chimpanzés, ils ont des outils, ils transmettent, on les observe, ça va. Les éléphants aussi, on y arrive, ils s'intéressent, je suis d'accord. Dans l'eau, on ne voit pas comment on peut suivre les dauphins, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais il y a beaucoup d'études sur les sons des dauphins, sur leur communication, etc. On sait qu'il y a des dialectes, ça change d'un groupe à l'autre. Maintenant, évidemment, question outil ou autre, ça joue la corde, mais ils apprennent à chasser. Et c'est sur la communication qu'on arrive à le mettre en évidence, comme les chants des baleines, etc. Voilà. Par contre, évidemment, ça ne passe pas par l'outil, etc. Et je vous l'accorde, nous avons un biais, nous, enfin, je ne suis pas préhistorien, je suis anthropologue, mais c'est qu'effectivement, l'outil, c'est la culture, donc c'est le premier réflexe qui nous vient et que vous avez eu, c'est tout à fait normal. Mais on le voit bien, justement, ça a été un article fondamental. Ah, je veux dire, il est canonique celui-là, il est sorti en 1999 dans Nature. Où là, justement, nos collègues éthologues, donc ceux qui étudient vraiment les animaux dans le contexte naturel, ils ont regardé l'ensemble des comportements par-delà les outils qui se transmettaient et qui différaient chez les groupes de chimpanzés. Eh bien, les manières de se saluer, de communiquer, de séduire les femelles. Il y en a qui sifflent, il y en a qui disent « viens voir », etc. Mais, c'est un tas de stratégies, hein, c'est génial. Enfin, si vous intéressez, je vous donnerai un petit peu les tuyaux. Mais très, très sérieusement, regardez, les manières de se saluer, cher monsieur, vous le savez bien, que vous connaissez certainement les Américains, vous les rencontrez, vous les connaissez, vous donnez une poignée de main, mais après, une fois qu'on se connaît, on ne fait plus de poignée de main. Alors la bise, vous faites gaffe, parce que là, en plus, ils peuvent vous accuser de leur envoyer des microbes. On ne se fait pas la bise comme ça, hein, aux États-Unis. Hein. Par contre, vous êtes au Maroc, les hommes se tiennent par la main et s'embrassent. Alors c'est pour ça qu'on dit dans les guides de touristes, vous êtes à Marrakech, il y a des hommes qui se tiennent par la main, ils ne sont pas forcément homosexuels, c'est un signe d'amitié. Par contre, on ne tient pas la main d'une femme, alors que chez nous, on tient la main d'une femme. Vous voyez ? Donc tout ça, ce sont des choses qui sont culturelles, avec des tolérances, des intolérances et des traditions. La même façon, c'est marrant parce que, comme tout le monde, j'ai de bons amis, quand je rencontre Cédric Villani, je pense qu'à lui, parce que vous connaissez bien ça, mais on s'embrasse, et puis il y en a d'autres, c'est les poignées de main. Voilà, donc ça dépend des relations, et voilà. Et ben on a ça chez les chimpanzés aussi, ou des façons. Et il y a des chimpanzés sur les traditions alimentaires. On préfère manger des termites d'un côté ou des fourmis de l'autre, pourtant les deux sont là. Et puis il y a des manières de les manger. Voilà. Donc effectivement, la culture, l'outil, c'est l'aspect très tangible de la culture et des pratiques contre les outils, mais ça concerne tout ça. Et donc surtout la communication, bien sûr, pour revenir aux dauphins et aux baleines.
Je crois qu'il y avait une dernière question. censuré.
Voilà. C'est bon. Voilà.
Bon. Merci pour votre exposé. Je vais revenir sur la dernière partie, la robotique et l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez, donc deux questions en une, que si on prend votre définition, la prochaine espèce K, ce sera une espèce d'intelligence artificielle de robot? Et est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir une nouvelle forme de religion, voire une nouvelle religion, issue de cette nouvelle espèce?
Alors, nouvelle espèce, je ne sais pas, justement, c'est toute la question de savoir du transhumanisme. Est-ce que on va. Parce que c'est tout l'enjeu de la médecine aujourd'hui, parce que où sont les limites entre la médecine qui répare et qui soigne et la médecine de confort? Alors, un des arguments, c'est de dire, par exemple, pourquoi ne pas interdire la chirurgie esthétique, par exemple? On peut avoir un nez complètement de travers, etc., et vivre tout à fait. Enfin. Pouvoir vivre. Maintenant, effectivement, on n'est pas à la place de la personne qui a un nez complètement de travers. Donc, vous voyez, ces choses sont là. Toutes ces questions sont là. Alors, donc, pour le post-humanisme, effectivement, il est très clair que s'il y avait, en toute hypothèse, c'est une expérience de pensée, comme on dit en physique, l'immortalité, plus de maladies, plus de souffrances, il est très clair que tout ce qui a été au sein de toutes les cultures humaines sur la finitude, ça sera une religion qu'on ne connaît pas du tout, hein, qu'on n'a jamais connue. Ça, c'est très clair. L'autre chose maintenant, ceci dit, il y a des cultures qui ont répondu différemment, effectivement, avec ces formes de cannibalisme, on transmet les choses, donc mais là, je ne connais pas bien. Maintenant, ces questions que posent les... alors, ce n'est pas tous les transhumanismes qui posent ça, parce qu'il y a beaucoup plus de courants qu'on ne pense. Hein. Il y a les extropiens, il y a plein de trucs là-dedans, j'ai du mal moi-même à m'en sortir. Mais ceux qui disent, il y en a qui pensent, et ça, je trouve ça intéressant, comme Nick Bostrom, il travaille à Cambridge. Lui, il nous dit, on vous le trouvez facilement, mais transhumanisme. Alors vous allez si vous voulez avoir des items, enfin les sujets, vous tapez transhumanisme, mais en anglais. Et vous tomberez sur un portail. Vous sur Wikipédia qu'il y a de très très grands sujets, il y a ce qu'on appelle un portail, et vous verrez listé, c'est très bien fait, tous les différents courants du transhumanisme, etc. Et là, il dit, n'est-on pas en droit, et c'est intéressant d'un point de vue philosophique, moi je pense que c'est tout à fait légitime d'un point de vue philosophique, de se poser la question, peut-on penser une humanité indépendamment de la souffrance, de la maladie et de la mort? Et il ne se pose pas contre les religions. Ils disent peut-être que le moment est venu de penser différemment. Et je trouve ça, d'un point de vue philosophique et anthropologique, intéressant. Ça veut pas dire Jésus-Christ. Mais c'est une expérience de pensée, et soyons clairs, pas plus que la science est un exercice de la pensée et de la connaissance qu'elle rencontre des religions, il s'agit exactement de la même chose. Voilà, ça c'est important de le rappeler. Puis il y a une autre partie de vos questions qui m'a échappé, excusez-moi, que j'ai oublié dans ma digression. Sur les intelligences artificielles. Ça c'est un peu cette histoire qu'on voit dans iRobot, qu'on voit déjà chez Frankenstein et qu'on voit dans le dernier film. Alors dès qu'il y a Luc Besson, ses films commencent toujours bien, puis à la fin, c'est Ghost in the Shell. C'est la question de savoir comment s'est construit l'individu et comment est son identité. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très marqué depuis Frankenstein, donc le Prométhée moderne. Ça va être Mary Shelley, elle est absolument géniale, elle a écrit ça, elle avait 18 ans. Et aujourd'hui, on voit dans iRobot, où ils disent « There is a ghost in the machine », il y a peut-être une pensée dans la machine, et qu'on voit aussi dans Ghost in the Shell avec elle. Alors, il y a un film que je vous conseille de voir, en plus ce film est excellent, qui s'appelle Her, The Spy Jones. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Her. Où là, alors justement, Scarlett Johansson, elle est dans tous les coups. Elle est dans Lucy, elle est dans le logiciel, et puis elle est dans Ghost in the Shell. Où là, c'est un monsieur qui a un logiciel auto-apprenant, qui est capable de détecter ses émotions et ses désirs, et qui, au bout d'un moment, est capable de lui donner ses désirs avant qu'il les exprime. Et là, c'est très intéressant sur le plan anthropologique, parce que vous avez autour d'eux que si vous avez une machine qui est capable de vous apporter des réponses même avant que vous les exprimiez, vous rentrez dans la capacité d'avoir des relations avec les autres humains. Et ça, c'est une forme de fin de l'humanité. Puisqu'avoir une relation avec l'autre, c'est très compliqué. Quelles sont ses intentions, son empathie, sa sympathie, est-ce que je peux avoir confiance, est-ce qu'on peut faire les choses ensemble, tout ça, tout ce qu'on connaît tous les jours, évidemment. Et là, la machine, d'un seul coup, vous abstrait complètement de cette interrogation, puisque vous avez tout de suite une confiance absolue, et la machine vous entraîne dans ce que vous désirez. Et à partir de là, il n'y a plus d'humanité. C'est un sociologue allemand, je ne sais plus quel est son nom, qui a dit cette chose qui est absolument vertigineuse pour moi. À partir du moment Vous vivez dans un monde avec des machines qui sont capables d'assouvir vos désirs avant que vous ne les exprimiez, cette société n'a plus d'avenir. Et c'est ça, et c'est là que, franchement, ce qui se passe dans cet institut des hautes études du monde religieux, on voit bien qu'au contraire, la pensée religieuse sur le devenir de l'humain, sur ce que nous sommes, sur nos ontologies, sont complètement re-questionnées par ce monde qui arrive. Et plus que jamais, nous sommes vraiment dans l'esprit de notre temps. Donc voilà un petit peu les réponses que je vous donnais, mais très clairement, on a on va avoir des formes de fétichisme, mais c'est pas nouveau, mais avec ces machines, sauf que ces machines sont capables de nous parler et de détecter nos émotions. Donc je crois que plus que jamais, on a besoin d'une bonne philosophie, d'une bonne anthropologie, d'une bonne éthologie et d'une bonne pensée, je dirais pas religieuse, mais plus large sur nos ontologies, ce qui implique bien sûr les religions.
Merci.
Merci à vous.